J'ai une excellente question pour vous. Comment pouvons-nous être certains d'éviter le jugement de Dieu et sa condamnation éternelle? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui pourra transformer votre vie aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, vous avez sûrement remarqué que dans l'Épître aux Hébreux, on parle beaucoup à propos du péché. Si vous n'avez pas encore reçu le pardon de vos péchés par la foi en Jésus seul, il est possible que vous trouviez que nous parlons trop souvent du péché. Mais je vous encourage à bien écouter l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui. Et vous aurez l'occasion, justement, de faire ce qu'il faut pour en être entièrement libéré. Alors voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures. De quoi avons-nous besoin pour nettoyer et libérer notre conscience du péché? Que devons-nous faire pour obtenir le pardon de nos péchés? Quelles sont les œuvres que Dieu accepte? À quoi ressemble une carte de crédit spirituelle? À quoi ressemble une carte de guichet spirituelle? Qu'est-ce qui nous donne la victoire sur le péché? Quelle est l'origine du péché? Comment pouvons-nous être certains d'éviter le jugement de Dieu et sa condamnation éternelle? Demeure à l'écoute. Le pasteur Jean Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, merci pour la prière. Merci de nous donner accès à toi. Merci pour le sang de ton Fils qui a été versé pour qu'on ait cet accès à toi. Merci de nous avoir montré le chemin qui mène au ciel. À travers cette émission, Seigneur, parle au cœur de ceux qui sont pas encore pardonnés, de ceux que tu n'as pas encore sauvés. Touche leur cœur, fais d'eux des enfants de Dieu, comme tu l'as fait pour plusieurs d'entre nous. Je te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé la comparaison entre le tabernacle terrestre et le tabernacle céleste. Le tabernacle terrestre se trouvait sur la terre, alors que le Seigneur Jésus est entré dans le tabernacle céleste, entièrement établi par Dieu. Le tabernacle terrestre était une figure du véritable tabernacle, soit le tabernacle céleste dans lequel le Seigneur Jésus a pénétré pour nous représenter devant Dieu. Le tabernacle terrestre était inaccessible au peuple. Cependant, tous les croyants sont invités à venir avec assurance en la présence de Dieu. Le tabernacle terrestre était temporaire, il a été établi en attendant que le Seigneur Jésus s'offre en sacrifice pour nos péchés et qu'il pénètre dans le tabernacle céleste avec son sang qui nous purifie de tout péché. Le tabernacle terrestre était incapable de changer le cœur des Israélites alors que le tabernacle céleste transforme la vie des croyants. Après avoir résumé l'enseignement au sujet du tabernacle, nous avons débuté la comparaison des sacrifices d'animaux au sacrifice de Jésus-Christ. Entre autres, nous avons vu que la vache rousse, qui était sacrifiée pour produire l'eau de purification, illustrait bien le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. La vache devait être rousse, car le rouge illustre le fait que le Seigneur Jésus ait été fait péché pour nous. Elle devait être sans défaut, car elle illustrait le sacrifice de Jésus-Christ qui était sans péché. La vache était sacrifiée hors du camp, en présence du souverain sacrificateur. Cela soulignait le fait que le Seigneur Jésus était à la fois le sacrificateur et la victime. Il s'est sacrifié lui-même en aspergeant le sang de la vache 7 fois devant le tabernacle. Le sacrificateur soulignait la complétude du sacrifice de Jésus-Christ. Pendant que la vache brûlait, le sacrificateur devait jeter du bois, de cèdre, de l'hysope et du cramoisi dans la flamme. Ce geste indiquait que le Seigneur Jésus allait racheter toute la création, pas seulement les êtres humains. Reprenons notre examen du sacrifice de Jésus-Christ en lisant Hébreux chapitre 9, versets 13 et 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie, procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Le sacrifice de Jésus-Christ est le seul qui soit adéquat et efficace. Si le sang des animaux pouvait purifier les souillures rituelles, combien plus le sang de Jésus-Christ peut-il nettoyer notre conscience abîmée par des œuvres qui conduisent à la mort? Combien plus peut-il libérer notre conscience chargée de nos péchés? En effet, si le sang des bœufs et des boucs aurait été efficace pour faire cette purification, le Seigneur Jésus n'aurait jamais versé son sang sur la croix. Cependant, il a dû le faire, car c'était le seul sacrifice adéquat et efficace. Purifiera-t-il votre conscience? Les ordonnances de l'Ancien Testament au sujet du sacrifice de la vache rousse nous enseignent que les croyants ont constamment besoin d'être purifiés de leurs péchés. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie continuellement de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Citation de 1 Jean chapitre 1, versets 7 et 9. Le sang de Jésus-Christ ne purifie pas notre chair, mais notre conscience. C'est notre conscience qui a besoin d'être purifiée. Nous n'avons pas atteint le but spirituellement tant que nous n'avons pas accepté pour nous le merveilleux sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, et tant que nous ne reconnaissons pas son autorité de nous pardonner nos péchés et de nous en purifier. La conscience purifiée a été éveillée par la parole de Dieu, mais elle s'appuie aussi sur le plan salvateur de Dieu qui est entièrement accompli ou exécuté. Le soir, lorsque nous nous couchons, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles parce que nous savons que nos péchés sont totalement pardonnés. Nous savons qu'il en est ainsi parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait tout le nécessaire afin que nous soyons pardonnés. Il a fait cela en acceptant de s'offrir en sacrifice sur la croix. Pourquoi ne croirions-nous pas Dieu? Mes amis, chaque fois qu'il y avait un appel au salut dans son église, une dame s'avançait. Elle n'avait jamais l'assurance de son salut. Pourtant, l'enseignement de la Bible est clair. Une personne qui se repent et se confie en Jésus-Christ pour le salut de son âme reçoit le pardon de ses péchés. Jean a dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » 1 Jean chapitre 5, verset 13. L'apôtre Paul a dit, en lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 1, verset 7. La parole de Dieu, donc Dieu, dit que si nous nous repentons et que si nous nous confions en Jésus-Christ, nous obtenons le pardon de nos péchés. Pourquoi ne croirions-nous pas Dieu? Si vous éprouvez de la difficulté à croire cela, lisez la parole de Dieu, la Bible, et demandez à Dieu de vous éclairer. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Les œuvres mortes sont les œuvres qui peuvent abîmer votre conscience ainsi que les œuvres inutiles que vous faites pour gagner ou mériter votre salut. Tant que nous ne venons pas à Jésus-Christ, nous sommes spirituellement morts. Nous sommes morts dans nos péchés et nos transgressions. Une personne morte ne peut que faire des œuvres mortes. Un mort ne peut pas faire les œuvres d'un vivant. C'est impossible. Tout ce que vous faites pour gagner, mériter ou acheter le salut de votre âme est inutile. Ce sont des œuvres mortes. Quelles sont les œuvres que Dieu accepte? Les bonnes œuvres ne nous procurent pas le salut de notre âme, mais les œuvres acceptables aux yeux de Dieu sont les œuvres qui résultent du salut de notre âme, les œuvres qui proviennent d'un cœur qui aime Dieu. Une fois notre conscience purifiée des œuvres mortes, nous servons le Seigneur avec gaieté de cœur. Le mot grec « latreuo », qui est traduit « servir », signifie « rendre un culte ». L'adoration et le service chrétien sont indissociables. Nous ne pouvons pas adorer Dieu sans le servir, ni le servir sans l'adorer. Lorsque je vois un croyant paresseux qui ne fait rien pour Dieu, je ne questionne pas nécessairement son salut, mais je ne crois pas qu'il soit un adorateur de Dieu. Comment peut-il reconnaître la majesté, la souveraineté et l'autorité de Dieu s'il refuse de le servir? Comment peut-il prétendre adorer Dieu? Si vous vous inclinez devant Dieu pour l'adorer et le louer, en vous relevant, vous allez désirer le servir. Nous n'avons pas besoin de travailler pour le salut de notre âme. Par son sacrifice sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a accompli tout le nécessaire. Nous n'avons qu'à nous repentir et accepter ce merveilleux cadeau. Par contre, puisque le Fils de Dieu m'a tant aimé, je vais le servir avec joie et gaieté de cœur. Hébreux chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. À quoi ressemble une carte guichet spirituelle? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. L'auteur de l'Épître met l'accent sur le fait que le Seigneur Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Les croyants de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, étaient sauvés en offrant des sacrifices pour leurs péchés. Ainsi, ils portaient leur regard sur le Seigneur Jésus qui viendrait un jour, le véritable agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est difficile de dire à quel point ils comprenaient la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus, mais celui-ci a dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. » Il l'a vu. Et il s'est réjoui. Jean chapitre 8, verset 56. Job savait qu'il avait un Rédempteur vivant. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job 19, verset 25. Nous ne savons pas à quel point il comprenait le plan Rédempteur de Dieu. Mais celui-ci lui avait révélé qu'il y avait un Rédempteur pour le rachat de son âme. Les croyants ou les saints de l'Ancien Testament regardaient vers un Sauveur qui devait venir un jour. Dieu les sauvait et les bénissait à crédit. Il émettait des cartes de crédit spirituel, sachant que son Fils paierait un jour pour toutes les bénédictions qui leur étaient accordées. Il les paierait avec son précieux sang versé sur la croix. Nous voyons cela dans l'Épître aux Romains. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Citation de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 25. Dieu avait laissé les péchés impunis. Il pardonnait aux croyants de l'Ancien Testament parce qu'il savait qu'un jour son Fils paierait leurs dettes, qu'il prendrait sur lui la peine méritée par leurs péchés. Les croyants ont donc été sauvés à crédit jusqu'au jour de la crucifixion du Seigneur Jésus. Depuis que le Seigneur Jésus est venu, Dieu émet des cartes guichet spirituelles plutôt que des cartes de crédit. Puisque son Fils a déjà tout payé et tout accompli pour le salut de notre âme, nous n'avons qu'à puiser dans les bénédictions qu'il nous a acquises. À quoi ressemble une carte guichet ou une carte de débit spirituel? C'est la prière de la foi. Hébreux chapitre 9, versets 16 et 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Si vous avez un testament, il ne profitera pas à qui que ce soit tant que vous vivez. Il ne peut pas être exécuté de votre vivant. Dans ces versets, l'auteur parle d'un testament fait par une personne décédée. Le Seigneur Jésus devait mourir pour que nous puissions être sauvés. La venue de Jésus-Christ sur la terre ne pouvait pas nous sauver. Il nous a enseigné, mais c'est sa mort expiatoire qui nous procure la vie éternelle. Versets 18 à 22. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous ». Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Qu'est-ce qui nous obtient la victoire? Le mot « sang » est mentionné 6 fois dans ce passage bref de l'Écriture. Ce fait révèle la puissance du sang dans les rituels de l'Ancien Testament. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ceci était vrai pour les croyants de l'Ancien Testament, et ça demeure vrai pour les croyants du Nouveau Testament. La victoire a été obtenue à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, nous dit l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Si nous lisons le contexte de ce verset, nous voyons que l'agneau est le Seigneur Jésus-Christ. La victoire n'a pas été obtenue par l'emploi de stratégies ingénieuses, par la force physique ou même par la puissance spirituelle. Le sang du Seigneur Jésus versé sur la croix nous a obtenu la victoire. Verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. L'origine du péché se trouve dans les cieux. C'est là que Lucifer s'est révolté contre Dieu, tout en entraînant avec lui de nombreux anges. Le sang des bœufs et des boucs n'a jamais été versé dans les lieux célestes. Ceci aurait été inapproprié. Cependant, le Seigneur Jésus est entré dans le sanctuaire céleste, après avoir versé son propre sang. C'est ce qui convenait pour les choses célestes. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Le tabernacle terrestre n'était qu'une figure du tabernacle authentique et réel qui se trouve dans le ciel, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Le Seigneur Jésus s'est présenté à Dieu, et non dans un sanctuaire érigé par des hommes. Il n'a pas pénétré dans une imitation du sanctuaire céleste, mais dans le sanctuaire authentique. Le Seigneur Jésus a été crucifié sur la terre pour nous sauver, et il vit au ciel pour nous préserver. Il comparaît devant Dieu pour nous, il plaide notre cause, et il intercède pour nous. Verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Les souverains sacrificateurs de la tribu de Lévi n'offraient pas leur propre sang pour obtenir le pardon des péchés du peuple. De plus, ils devaient entrer dans le Saint des Saints une fois par année, un geste qui a été répété plusieurs fois pendant quelques siècles. Verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois, nous dit le texte. Le mot grec « aion » traduit « siècle » signifie aussi « période de temps » ou « âge ». Ce verset dit simplement que lorsque le temps est venu, le Seigneur Jésus a accepté de mourir sur la croix. Il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est né sous la loi. Cependant, lorsque l'heure est venue, il a inauguré le régime de la grâce, le régime sous lequel nous sommes présentement. Revenons au texte. Lisons Hébreux chapitre 9, le verset 27. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?»« Tous les hommes meurent. Pour le non-croyant, celui qui aura refusé la grâce de Dieu, c'est la condamnation éternelle qui l'attend. Si Jésus-Christ n'est pas votre substitut, s'il n'a pas pris sur lui votre condamnation, alors il ne vous restera qu'à faire face au jugement et à la condamnation divine. » Verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Êtes-vous de ceux qui attendez le Seigneur Jésus pour votre salut? Un individu n'a que deux options, soit qu'il porte lui-même ses péchés et qu'il subisse la condamnation éternelle, soit que Jésus-Christ les porte pour lui. Jésus-Christ a porté les péchés de ceux qui l'attendent pour leur salut. Ceux-là ne comparaîtront jamais en jugement pour une condamnation éternelle, mais leurs œuvres seront jugées pour recevoir une récompense. Êtes-vous de ceux qui attendez le Seigneur Jésus pour votre salut? Par contre, ceux qui n'auront jamais voulu que le Seigneur Jésus règne dans leur vie, ceux qui n'auront jamais reconnu son autorité, c'est la condamnation éternelle qui les attend. Ceux qui ne se seront pas confiés en Jésus-Christ pour leur achat ou le salut de leur âme seront condamnés pour l'éternité. En fait, si vous ne vous êtes jamais repenti, et si vous n'êtes jamais venu au Seigneur Jésus afin qu'il vous sauve, vous êtes déjà condamné. Une personne qui est tombée en mer est condamnée, sauf si quelqu'un lui lance une bouée de sauvetage et qu'elle saisisse cette bouée. Nous sommes tous à la mer et nous sommes déjà condamnés. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ, en ayant accepté de mourir à notre place, nous lance une bouée de sauvetage. Nous saisissons cette bouée en mettant notre confiance en lui, en son sacrifice sur la croix, pour avoir la vie éternelle. Que confirmera le jugement dernier? Au jugement dernier, personne ne sera sauvé. La seule chose que le jugement va accomplir, c'est confirmer que votre condamnation est bel et bien méritée. Seul le sang de Jésus-Christ versé sur la croix peut vous purifier de vos péchés. Saisissez cette précieuse bouée de sauvetage en vous repentant et en demandant au Seigneur Jésus de vous sauver. N'attendez plus, allez en prière et faites-le maintenant. C'est la seule bouée disponible. Notre salut opère en trois temps. Premièrement, au passé. Jésus-Christ s'est offert une fois pour toutes pour nos péchés. Nous avons été sauvés lorsque nous avons mis notre confiance en lui. Deuxièmement, au présent. Le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Jésus-Christ et nous sanctifie tout le long de notre pèlerinage terrestre. Troisièmement, au futur. Lorsque le Seigneur Jésus viendra, ses enfants ressusciteront avec un corps glorifié, ou pour ceux qui seront vivants à son retour, leur corps mortel sera transformé en corps glorifié. C'est à ce moment-là que les croyants seront entièrement libérés de leur nature pécheresse. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Citation de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 22 et 23. Ce sera un jour merveilleux. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, les versets 1 à 14. Bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Mes amis, Régent vient de nous dire en détail comment nous pouvons être certains d'éviter le jugement de Dieu et sa condamnation éternelle? Comment nous pouvons être certains que tous nos péchés sont effacés et que nous passerons l'éternité au ciel dans la présence de Dieu? Alors, mon ami, j'aimerais donc te faire une belle invitation aujourd'hui. Je peux même te dire que c'est Jésus lui-même qui veut te faire personnellement cette belle invitation. Une invitation à passer l'éternité au ciel avec lui. Alors j'aimerais que tu oublies que c'est moi qui parle, puisqu'en réalité, c'est Jésus qui va te parler à travers ma voix dans quelques secondes. Mon ami, Jésus est présent. Même s'il est au ciel, avant de quitter cette terre le jour de l'Ascension, il a dit ceci à ses disciples. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il a aussi dit à un autre moment que lorsqu'on est réunis en son nom, il est au milieu de nous. Donc Jésus est ici en ce moment. Écoutez-le. Écoute-le, mon ami. Voici ce qu'il dit. « À tous ceux qui m'ont reçu, à tous ceux qui croient en mon nom, j'ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Si tu crois en mon nom, tu as la vie éternelle. Mon ami, tu n'es pas une exception. J'ai dit par les écrits de l'apôtre Paul que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont gratuitement justifiés par ma grâce, par le moyen de la rédemption qui est en moi, Jésus-Christ. Mon ami, n'essaie pas de te sauver toi-même. Par tes bonnes œuvres, c'est par la grâce que tu es sauvé, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que tu ne te glorifies pas. Mon ami, repens-toi et crois à la bonne nouvelle. La repentance, c'est un changement de cœur à l'égard du péché qui fait que tu veux t'en éloigner. Mais tu n'en as pas la capacité sans ma puissance. Mon ami, détourne-toi du péché et tourne-toi vers moi. Je suis Jésus qui t'appelle. J'ai donné ma vie sur la croix. J'ai reçu la condamnation que tu méritais pour tes péchés. J'ai payé ta dette en entier. Ce ne sont pas les clous dans mes mains et mes pieds qui m'ont retenu sur cette croix. C'est mon amour pour toi. Mon ami, je veux te sauver maintenant. Reçois-moi comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, c'est-à-dire ton Maître. Laisse-moi diriger ta vie, à compter de maintenant. Mon ami, tu es perdu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Je veux être intime avec toi. Je veux que tu m'appartiennes pour l'éternité.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, bien c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Je dois connaître, et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.